Hold-up avec prise d'otage cette nuit dans un dépôt d'une société de transport de fonds à Toulouse, la Brinks. 7 ou 8 malfaiteurs ont retenu en otage plusieurs employés avant de s'enfuir ce matin avec 15 millions de francs.
Moi, je voulais vivre à fond, tu comprends. Moi, la musique ne me donnait plus ce dont j'avais envie, tu vois. De temps en temps, quelques concerts et puis de temps en temps, quelques braquages.
C'est un son rare. Au seuil de l'été 88, Jean-Pierre Pernaut, qui officie déjà au JT de TF1, parle d'un fait divers à Toulouse lié à des musiciens punk. Plus exactement, dans la bande des 6, il y a deux femmes, un basque, Didier et son pote Gilles. Gilles Bertin est alors connu pour avoir été chanteur et auteur du groupe Caméra Silence, groupe bordelais majeur de la scène punk française des années 80. Bonjour et bienvenue dans cette 23e visite de la saison 8 du Panthéon Décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine et la suivante, c'est repentir d'un écorché vif, repenti des drogues dures, repenti des braquages, repenti de la prison et de la cavale. Mais jamais repenti de la musique et de son côté punk. Sauf mention contraire, comme on dit, l'essentiel des sons d'interview sont issus de l'excellent doc de Jenny Granval, réalisé en 2020 d'après le livre de Gilles Bertin, 30 ans de cavale, et je dois dire que l'idée m'est également venue grâce à l'excellente BD de Stéphane Wary, dont je vais vous parler un petit peu plus à la fin de cette visite.
Moi, ceux qui sont venus de Bordeaux, ne m'en demandez rien.
Donc Gilles en particulier, c'était sur scène, c'est un écorché vif. C'est quelqu'un qui crache ce qu'il a à l'intérieur. Il ne s'occupe pas de faire ni joli, ni de la musique, ni quoi que ce soit. Il exprime quelque chose. Et c'est ce qui était très fort et très touchant.
Il y avait très peu de punk à cette époque-là, sur Bordeaux. Hein.
Ton grand ami Didier. Vers 83, il se met en couple avec sa sœur Nathalie, avec qui il aura son grand-fils, comme il dit, Loris.
Et ce qu'il y avait, on était tous un peu, fantasques. Sans être montant l'air, hein, ni extravagant, mais rien que notre présence, on pouvait pas la rater. Et Gilles faisait partie de ces gens-là. C'était un mec qui te poussait par sa présence. C'est une bête de scène, voilà. C'est ce qu'on appelle une bête de scène. C'était Gilles. Sur scène, il se métamorphosait. Il était beau à voir. Il était vraiment beau à voir. Il emmenait les mecs avec lui. Hein. Et toute la salle. Comme un seul homme.
J'en ai marre d'entendre dire le punk c'est ringard, etc. Alors qu'on écoute la longueur de journée.
Mais bien, ça passe pas. C'est beaucoup plus subversif qu'en 77. Je pense qu'on en a un peu parlé et pourtant il y a vachement de punk là, peut-être plus qu'en 77. En France, je pense qu'il y a peut-être 4 fois plus de groupes qu'en 77. Ça le fleurit partout. Et personne n'en parle. Bon, mais ça fait rien. De toute manière, ça se passera quand même.
En avril 2019, le basque Laurent Perpignat-Iban interview Gilles Bertin pour la revue bordelaise Far West.
D'accord, le mouvement punk est arrivé rapidement dans le sud-ouest, après un festival à Mont-de-Marsan.
Le Panthéon Décousu a consacré sa 20e visite de la saison 4 en janvier 2021 au festival de Mont-de-Marsan de 77 et aussi de 78. D'ailleurs, je vais le remettre en podcast avec ses voisins consacrés à Roxy Music, Sex Pistols, Les Clash et Madness. Ciao. Pourquoi pas.
Ouais. Derrière, il y a eu toute une flopée de groupes qui ont apparu à l'époque justement de Caméra Silence.
Il y a eu d'abord une première génération hein, de punk français, c'est-à-dire les Star Shooters, les Metal Urbain, les Stinky Toy. C'était autre chose. C'est après, avec la seconde vague, 1980, où vraiment le truc a pris avec les Bérus, nous, etc. OTH, qui ne faisait pas du punk, mais bon, qui était pris dans la vague, quoi. Nous, on traînait nos savates, oui, c'est ça, on traînait nos savates dans les rues, hein. On dormait dans les squats, on mangeait pas tous les jours à notre faim. Ça a duré deux petites années, hein. Après, de suite, on a essayé de devenir musicien.
On ne travaillait pas, on vivait vraiment, on s'autosuffisait, on vivait vraiment entre nous, on squattait dans un appartement et on se débrouillait pour bouffer. Bon, évidemment, on volait tout ce qu'on pouvait, hein. On s'habillait comme on pouvait aussi, c'était pas le plus grave. Hein. On vivait à la dure quand même, on vivait vraiment notre truc à fond.
On vivait comme ça, en se débrouillant. Il nous fallait pas beaucoup, hein. On squattait, il nous fallait juste pour bouffer, et on n'achetait même pas les fringues, donc pour les concerts, et encore très gratuit dans les concerts, donc on avait de l'argent de poche, voilà. Et pour inviter les potes, pour bien vivre, tu vois.
qu'il fallait pour survivre, enchaîné à l'ennui. Il était seul, il s'en foutait, exploitait, exploitait. L'ennui, la mer est finie. Et je savais, et je savais qu'un jour les rats ouvraient sa vie. Squat, squat.
Il se trouve que le premier livre que j'ai acheté, c'était un livre sur les lettres de la fraction Armée Rouge. Et là-dedans, il parle des cellules d'isolement sensoriel, dans lesquelles étaient enfermés les membres de la fraction Armée Rouge, qui s'appelaient les caméras silence. Et puis voilà, on décide de s'appeler caméras silence à cause de ça.
Pourquoi ce
mot
énigmatique en latin ? Ça veut dire quoi ?
En latin ?
Ça ne
veut rien dire, je pense.
En latin, c'est pas ce que ça veut dire, on sait ce que ça représente, hein. C'est en Allemagne.
C'est un mot inventé par la CIA, par les Américains.
Ouais, ouais.
Et on sait ce que ça représente.
Ça veut dire cellule de privation sensorielle.
Voilà. Exactement. C'est la privation sensorielle.
C'est la torture propre, la torture des pays occidentaux.
Gilles, d'où venez-vous et quel fut votre parcours ?
J'ai reçu une éducation assez stricte. Hein. Mon père était communiste. Hein. C'était rigide à la maison. Hein. J'étais un bon élève jusqu'à l'école primaire. Hein. Je rentre au collège et là, je pars complètement en vrille. Je ne fous plus rien. Je décroche complètement. J'attendais 18 ans pour me barrer, quoi, en fait. Hein. Je vais à Bordeaux. Bon, Bordeaux représentait déjà la ville, la musique, tout se passait à Bordeaux. Hein. On est arrivé en finale d'un tremplin, parce qu'à l'époque, c'était la seule manière de se produire, en fait. Il y a des tremplins musicaux. Et on arrive en finale avec Noir Désir. Bon, c'est l'anecdote hein, que tout le monde connaît, et Noir Désir se sépare à ce moment-là et nous laisse le premier prix, quoi. Et c'était 10 jours dans un studio, le studio du Manoir, qui à l'époque représentait beaucoup d'argent et une opportunité d'enregistrer. Et voilà ce qui s'est passé. Et là, on est resté 10 jours en studio, on a fait ça à l'arrache, comme d'habitude, et puis voilà.
La drogue est rentrée rapidement dans ce milieu, pas qu'en France, pas qu'à Bordeaux, ailleurs. Il y a beaucoup de groupes de cette génération-là qui ont été décimés, particulièrement au Pays Basque. C'était le cas aussi en France et à Bordeaux.
Oui, c'est l'héroïne. Hein. À cette époque, malheureusement, la drogue omniprésente, c'était l'héroïne. Bon, évidemment, c'est toute une génération de qui a été sacrifié un petit peu.
Première erreur, prendre de la canne, prendre de l'héroïne, c'est ce qui est circulé à l'époque, malheureusement. Et dans le milieu rock, au début, c'est toujours festif, enfin festif, si on peut parler de festivité avec l'héroïne, mais bon, on en prend occasionnellement, hein, et puis on finit par tomber dedans, et ensuite on n'arrive plus à s'en sortir. Hein. Je pense que ça conditionne tout le reste. En fait, je menais une vie parallèle. Moi, je continuais à répéter avec Caméra Silence, je jouais avec Caméra Silence, nous avions quelques concerts même. Mais en même temps, à côté, pour gagner ma vie, et pour voilà, j'avais cette autre vie, quoi. Je braquais déjà des bijouteries, des banques. Quoi.
Didier n'est pas forcément dans les mêmes cours, mais sûr, il est dans le même trip.
Et comme on n'est pas du style à aller voler nos voisins ou les pauvres gens, les banques, les postes, les lotos, voilà où il y a de l'argent et où c'est pas un pauvre ouvrier qui se lève le matin, se crever le cul, toi. Donc voilà. Hein. C'est surtout après là-dessus que notre amitié s'est renforcée.
les légendes urbaines disent que vous êtes arrêté, vous êtes parti une fois en prison après avoir essayé de voler une sono.
Oui, c'est vrai.
Le punk à l'époque, c'était les squats et vraiment la galère.
La débrouille. Il fallait bien se démerder. Donc, il fallait, quand on était musicien, en plus, il fallait bien quand même se payer des instruments, des amplis, des sonos, etc. Donc, il fallait bien se démerder.
En 83, je rentre en prison. Donc, en rentrant en prison, j'arrête l'héroïne et je n'y retoucherai plus jamais. Voilà, je retrouve des amis plus ou moins délinquants, plus ou moins punk. Enfin bon, voilà, à ce moment. Des anarchistes basques. Un anarchiste basque, notamment. Qui deviendra mon ami, non? Et on commence, tous les trois, on prenait de l'héroïne avant de rentrer en prison, et tous les trois, on décide en même temps de ne plus en prendre. Voilà, c'est une décision, une espèce de pacte qu'on passe tous les trois. C'est pas une vie pour nous, on arrête, c'est terminé. Mais en sortant de prison, le besoin d'adrénaline fait que, bon, voilà, on remplace une addiction par une autre, et on tombe dans la délinquance. Petite délinquance, moyenne délinquance, et ensuite, on passe directement au braquage.
Première erreur, prendre de la drogue, et deuxième erreur, en sortant de prison, ne pas me lancer à fond dans la musique.
Allez, petite galerie de portraits de groupes qui se forment. Mais là, le refrain change, il ne s'agit plus de musique, même punk, mais d'un plan de braquage façon pro.
Inaki était déjà le plus aguerri d'entre nous, hein. Donc c'est lui qui avait des connaissances, logistiques, recel, tout. Didier était le plus technicien, c'est-à-dire voiture, bricolage... Quand il avait besoin de Takiwalki, c'est lui qui réglait tout, enfin bon bref. Et moi j'étais le bon à tout faire, quoi, en gros.
Nathalie, sa première compagne, mère de Loris et sœur de Didier.
Au niveau musique, c'était Gilles qui menait. Au niveau braquage, c'est Iñaki qui menait. Son côté basque. C'était une autre forme d'expression de ce mal-vivre, de cette difficulté à vivre. C'était la façon d'Iñaki. Donc ça s'est rejoint, en fait. Leurs deux modes d'expression s'est rejoint.
Moi je voulais vivre à fond, tu comprends. Moi, la musique ne me donnait plus ce dont j'avais envie, tu vois. De temps en temps, quelques concerts, et puis de temps en temps, quelques braquages. C'est ce que me donnait plus la musique, enfin, pas autant la musique. C'est un peu comme monter sur scène, un braquage. Voilà, c'est une montée d'adrénaline, c'est une sensation de bien-être, c'est inexplicable.
C'est une rébellion profonde par rapport à un système global, avec ses aberrations et cette impossibilité, hein, d'où le nom de Caméra Silence, de pouvoir exprimer ce qui était essentiel. Au point de risquer d'en mourir. C'est vraiment ça le symbole. Comme ils ne le savaient même pas eux-mêmes, ça ne fait que faire grandir une douleur intérieure qui ne peut sortir que de cette manière-là. C'est tout le mouvement punk, c'est ça. C'est un groupe qui pouvait être perçu comme des anarchistes, si on veut y mettre un mot politique, mais c'est d'être libre, d'être reconnu comme des humains à part entière, pas des objets qui sont obligés de servir un monde qui n'a pas de sens. C'est la pire des choses, d'être au service d'un monde qui n'a pas de sens.
Il se dit que les Berruriers auraient commis cet album en référence et grand respect de Caméra Silence. J'en sais trop rien, mais je trouve l'anecdote sympa. Donc voilà, petit agité.
Une banlieue maudite en zone interdite, une armée de flics. Marquée par la haine, les jeunes se déchaînent. La zone est en flamme et la folie gagne. Les gamins rebelles brûlent des poubelles. Ce soir c'est la fête. Petit agité. Tous des Berruriers. Petit Berrurier. Tous des agités.
Benoît Duquesne.
Le commando, apparemment très bien organisé, avait monté son opération en deux temps. Premier temps, avec ses fausses quatre-aides de gendarmerie et de faux uniformes, ils se présentent hier soir au domicile du directeur adjoint de la Brinks de Toulouse et le prennent en otage. Deuxième temps, dans les locaux de la Brinks, ils maîtrisent les employés au fur et à mesure de leur arrivée, les menottent et les enferment dans un fourgon. Il n'y a plus ensuite qu'à ouvrir la salle des coffres et disparaître avec 15 millions de francs. Les otages ne seront libérés que vers 8 heures.
Dans un fourgon à côté, il y avait quatre otages qui avaient les menottes au poignet. Et puis, c'est tout, on a appelé la police et qui sont arrivés. Et puis...
Ça s'est passé à quelle heure?
Moi, nous, on les a découverts à 8h15.
L'enquête s'annonce bien sûr difficile pour le SRPJ de Toulouse. En septembre 87, un commando s'en était déjà pris à la Brinks en raflant 25 millions de francs.
Bref, au loto des malfaiteurs, Negrolo, qui peut.
On avait un salon, il devait être grand comme la pièce où on est actuellement. C'était un tapis de billets. Là, vraiment, oui. là, on a réalisé qu'on avait fait quand même quelque chose d'assez puissant.
Ça demandait un an de préparation, au moins. Bon, au début, c'était un projet un peu fou. Hein. Bon, bah, nous, à l'époque, on avait peur de rien. Hein. Rien ne nous arrêtait. Hein. Mais quand même, même pour nous, le projet paraissait un peu fou. Non bon, on s'y colle, on s'y met, on repère donc les lieux, on sait où se trouve le centre fort de la Brinks, on le repère. Ce n'était pas difficile, il était sur le bottin.
On se levait à 4h du matin, tac, on allait courir, on allait croire qu'on allait courir, pour enregistrer qu'est-ce qui se passait dans cet entrepôt, les entrées, les sorties, à quelle heure, quel véhicule. Tu sais, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hein. Nous, on n'avait pas de rancard à l'intérieur. Il n'y avait personne qui nous disait, tiens, faut aller là. Ça nous allait même arriver de reprendre leur poubelle. Hein. Pour éplucher qu'est-ce qui rentrait, qu'est-ce qui s'y avait comme information, tu vois. Donc, non, on a vraiment bossé dur dessus. Les rentrées, les sorties, à quelle heure ils ferment, comment ils vont, les clés où elles vont, c'est assez fastidieux, tu vois, ça se fait pas comme ça.
Qui fait quoi, comment, à quelle heure partait le fourgon, on suit les fourgons, voilà. Et au bout d'un moment, avec tous ces éléments, on recolle les morceaux du puzzle, quoi, et on décide d'une action.
On a préparé la logistique. T'as les uniformes, les véhicules. Bon, au début, quand ils m'ont expliqué que je devais m'habiller en gendarme, j'étais un peu sceptique, tu vois. Mais bon.
Non, mais nous y voilà l'entrée. C'était un entrepôt, on ne voulait pas faire de fourgon blindé. Et c'était la seule moyen de prendre beaucoup d'argent sans excès de violence, en quelque sorte. Même s'il y a eu violence, de toute façon. Alors ici, on avait fait un barrage de gendarmerie, ici. Des employés qui arrivaient, bon, voilà, il nous fallait les prendre et les mettre aussi avec dans le fourgon. Et on s'était fabriqué des costumes à partir de vieux vêtements militaires. Des vieux vêtements de la Première ou Seconde Guerre mondiale, peints repeints en bleu, avec... C'est pas très difficile, en fait. Hein, c'était une ligne noire, ça devait être du sparadrap qu'on avait. C'était vraiment, de loin, ça, c'était parfait. De près, on se rendait bien compte, c'était pas les gendarmes. Et la porte d'entrée était là. Et c'était, voilà, une porte bleue, hein. Rien de... Et il y avait là le hangar où ils rentraient les fourgons blindés. Alors il y a deux accès, hein. Il y a un autre accès par là. Donc les employés arrivaient de ce côté et de ce côté. Donc il fallait savoir qui arrivait, à quand, à quelle heure, etc. Et c'est moi qui réceptionnais les employés, hein, qui reprenaient au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, je les amenais à Philippe Rose, qui lui les mettait dans le vestiaire. Et en attendant, le fourgon blindé qui allait ramener les clés de la chambre forte. Braquer une arme sur quelqu'un, c'est déjà de la violence. Bon, voilà. Pour nous, à l'époque, hein, pour nous, c'était pas de la violence. Nous, on s'amusait, tu vois, on plaisantait. Enlever les gens chez eux, c'est de la violence. Mais nous, voilà, l'important, c'était de ne tirer sur personne, qu'il n'y ait pas de mort ni de blessés. Ça s'arrêtait là. On ne se rendait pas compte que c'était de la violence. Pour nous, c'était un jeu. Et on est sorti par ici, nous. On a foutu les chariots dans le fourgon et après on est parti. C'est pas par où. Moi, Philippe, en Espagne. Didier et Iñaki sont partis de leur côté en Espagne également. Eux se sont fait attraper très très très, très vite. Hein. Donc il ne restait plus que Philippe et moi. On est parti en cavale. L'Espagne à cette époque, tout était permis, tout était les drogues pratiquement en vente libre. Donc une espèce de paradis.
Donc c'est Fiesta La Vista, Riviera et Moby Dick. Enfin, sauf s'il tient parole de ne plus prendre de la coke et autres défonce-douleurs. Et puis il n'est pas seul dans cette galère, il y a sa famille. Plan est tracé de se retrouver à Barcelone. Mais mauvaise pioche pour le moyen de transport, à mon avis. Hein. Mais mauvaise pioche pour le moyen de transport, à mon avis.
J'essaie de faire revenir mon fils et ma femme en Espagne, à Barcelone, alors que les flics nous recherchent, quoi. Loris, c'est mon fils, Nathalie, c'était ma compagne d'alors. Et nous prenons rendez-vous, donc ils doivent venir en avion, et évidemment, on doit prendre des précautions. Été 88, quelques mois après le braquage de la Brinks, Phil, un ami à moi, doit se rendre à l'aéroport et chercher Loris encore bébé, sa mère Nathalie et la mère de celle-ci. Le plan consiste pour moi à attendre au volant d'une voiture qu'ils sortent de l'aéroport, prennent un taxi, puis d'enquiller derrière eux, vérifiant ainsi qu'ils ne soient pas suivis. Aucun problème à la sortie. Je laisse passer le taxi en me tenant à bonne distance sans les perdre de vue. Après quelques centaines de mètres seulement, j'observe pas moins de deux véhicules collant systématiquement au basque du taxi, transportant ma famille. Je m'approche lentement, maintenant une distance suffisante pour ne pas me faire remarquer. Un rapide coup d'œil, avec quatre hommes à l'intérieur à l'allure de chien de chasse, dans chaque véhicule, ça sent la flicaille espagnole à plein nez. Je double et accélère plein gaz jusqu'au centre-ville. Et je vais au point de rendez-vous, là, juste derrière. Et je me rends compte que les flics sont juste là, sont là, quoi. Les deux voitures qui me suivaient sont là. Donc j'achète un journal allemand pour essayer de passer inaperçu, quoi. Enfin bon, c'est un peu ridicule, mais bon, voilà, quoi. Tabloïd allemand avec des lettres énormes écrites en allemand. Bon, voilà, je m'assois là. Bon, voilà, pour tromper un petit peu la police, quoi. Nathalie s'est dirigée vers moi. J'étais assis quelque part par là, je ne me souviens plus où exactement. Elle a vite compris que ça ne marchait pas, donc elle a suivi son chemin.
C'était chaud, quand même. Moi, j'étais tout seul, j'avais les gamins dans les bras, plein de sacs. Et pour Nathalie qui pouvait pas courir, hein, pas du tout. Donc ça a été assez chaud. Et il y a un moment donné, on marchait. J'étais en train de travailler dans ma tête. J'ai dit, putain, comment je vais m'en débarrasser. Et je sais pas, j'ai vu le commissariat. Oh là. Donc il y avait un bar que je connaissais, des potes africains. J'ai posé tout le monde. J'ai dit, écoute, tu restes dans ce bar, tu m'attends. Donc je les ai largués. Les flics, ils me couraient derrière. Je les ai largués et... J'ai renvoyé un pote plus tard, mais bien plus tard. Le bar était fermé et il les a vus au bout. Parce que j'avais décrit comment ils étaient, il les a rattrapés au vol. Il a dit, désolé, vous ne verrez ni Gilles, ni Phil, parce que c'est fini. Vous êtes suivis et il faut rentrer. C'est la dernière fois que j'ai vu Nathalie.
C'est surtout 28 ans de cavale qui commence. 28 ans à courir, se cacher, abandonner ses proches, sa femme, son fils. Nous voici rendus à la fin du premier acte. Gilles Bertin est en Espagne, retour illico en France pour sa compagne et son fils. Une nouvelle vie commence pour lui. Tout va changer de nouveau. Mais ça, nous le verrons dans la prochaine visite du Panthéon des Cousus, toujours sur Radio Alpa 107.3 Mans et radioalpa.com pour l'écoute en direct et les podcasts, également en écoute libre sur les meilleures plateformes. Je tiens à redire que l'essentiel des sons d'interview ici sont issus du doc d'Eugénie Granval, Il était une fois Gilles Bertin, doc réalisé à partir de son autobiographie, 30 ans de cavale, sans oublier l'excellente BD du non moins excellent et également manceau, Stéphane Wary, prenante et vraiment bien réalisée BD qui vient de sortir, Les héros du peuple sont immortels. Soit en version couleur, soit en version d'un noir et blanc absolument somptueux, augmenté de diverses interviews, uniques. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans sursis. Ça, c'est le titre du morceau, toujours issu de l'album de 85 et pour cause. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, on vous fait confiance pour rester le plus libre possible et ce, sans excès.
Pour toujours, il s'agit de Gilles Bertin, contre qui un mandat d'arrêt international vient d'être lancé.